Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, écoute tous les soirs les artistes pendant une heure. Et on est ravis ce soir de recevoir la musicienne Kerenan.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pep et tes papilles.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Karen Anne.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Écrit, composé et réalisé par Kerenan. Il y a beaucoup de jolis mots déployés dans la pochette promotionnelle de votre nouveau disque. Pourtant, ce sont ces trois mots-là, simples, qui m'ont arrêté. Ils sont alignés, au centre d'un verso quasiment vide, comme s'il ne fallait pas les manquer, comme s'ils disaient à eux seuls votre farouche indépendance, votre savoir-faire et votre solitude, parfois heureuse, parfois pas. Ce sont donc par ces mots-là que je suis entrée dans le lac faussement calme de votre disque bleu, trompeur aussi, ce mot-là qui appelle autant les reflets amoureux que les marques laissées par certaines douleurs. En tout cas, c'est un disque qui coule. Bonsoir à vous, Kerenan.
Bonsoir.
Bienvenue. Bleu sort sur le label Polydor et vous allez le porter un petit peu en concert ?
Oui, bien évidemment. Longtemps, j'espère.
Est-ce qu'ils sont importants pour vous aussi, ces trois mots-là qu'on trouve au revers de cette pochette, presque comme ça, comme une épitaphe. C'est drôle, hein, mais c'est pourtant exactement ce qui m'est venu.
Oui, alors ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants évidemment incroyables et merveilleux et des musiciens sublimes, mais même sur trois titres, quelqu'un qui a coécrit avec moi. Mais c'est juste, je pense, enfin, et d'ailleurs il y a l'Astérix qui le dit bien. je pense qu'il y a justement dans Bleu quelque chose qui est très très lié à la femme auteur. En tout cas pour moi, je me suis retrouvée plus proche de celles qui m'ont appris, qui m'ont appris plutôt que qui m'ont inspiré, parce que c'est pas toujours ceux qui nous donnent les outils qui sont ceux qui nous donnent l'envie. Mais il y en a pas mal de femmes comme ça, et pour la plupart, elles avaient ça en commun, cette manière de pouvoir jongler entre pragmatisme et frénésie, euphorie et calme, ce côté amniotique qui existe chez ces femmes, qui est pour moi très présent dans cet album.
Et l'idée qu'il y a quelque chose de la solitude, même si évidemment on vous sait entouré, que ce soit en studio ou ailleurs, là par exemple en régie, bien sûr que vous n'avancez pas seul dans ces projets artistiques, mais tout de même, il y a quelque chose qui en vous avance seul peut-être depuis des années. Est-ce que ça sonne juste à vos oreilles ?
Totalement. Oui, je suis mon capitaine, un peu. Alors, ça paraît un peu bizarre et parfois ça pourrait même paraître méprisant, mais c'est pas du tout par besoin de contrôle, c'est par besoin de satisfaction et d'accomplissement quand il s'agit de quelque chose d'artistique. J'aime le brainstorming, j'aime échanger, j'aime la collaboration. Et d'ailleurs, il y a plein de projets sur lesquels je collabore avec joie. Je pense que la chanson, c'est un peu la forme d'expression dans laquelle je me retrouve le plus satisfaite. Et pour pouvoir l'être, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, de faire une grande partie du trajet seul. J'ai besoin, même par moment, quand je contemple le son et la forme et les textures et les profondeurs qu'on peut avoir, ne serait-ce que celle du piano par moment, est-ce qu'il est grave. C'est des petits détails qui sont un peu les diables de quand on écrit. En fait, l'écriture, c'est quelque chose de très seul. C'est quand on est jeune, on écrit sans fin, on peut écrire 48 heures d'affilée sans boire une gorgée d'eau. Quand on a mon âge, on se lève tôt pour écrire, on se lève, on aime. Il y a certains éléments météorologiques desquels on dépend. Il faut qu'on voit le jour se lever parce que ça tourmente des choses en nous et ça nous donne envie d'écrire. Il y a ces moments seuls dans la cuisine avec un café qui compte. Il y a les moments où on passe à un instrument, où on choisit l'instrument qui va illustrer ou qui va nous donner la progression harmonique, qui va donner les notes et ensuite la possibilité d'y mettre des mots. Il y a toutes ces étapes-là. Ensuite, il y a aussi le son dans une pièce. Comment est-ce qu'on va faire sonner ce titre? Est-ce qu'il va être lumineux? Est-ce qu'il va être plutôt grave? Enfin, chercher les fréquences sonores et visuelles d'une chanson. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut faire que seul. Donc même s'il y a des moments où on écrit à deux, ces choses-là, ces finitions, ces rondeurs, le choix de l'accord, de la progression harmonique, c'est des choses qu'on trouve seul quand on écrit. Et quand je dis écrire, je parle des deux, et la musique et les mots. C'est des choses qui sont presque physiologiques, qui dépendent des heures qu'on passe, qu'elles soient nombreuses ou pas, ou de la concentration et du focus qu'on est prêt à donner à un projet ou à un titre afin d'arriver à satisfaction.
C'est quand même étonnant, Kerenan, que vous utilisiez ce mot-là de physiologique pour parler de votre travail en général. Mais là, quand on pense à l'album Bleu, bien sûr, il y a tout ce qu'on va dire de l'eau. Mais tout à l'heure, vous avez dit aussi amniotique. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre dans cette eau bleue aussi l'eau de laquelle nous sommes faites et faits, qui est une eau de naissance, qui est une eau maternelle, qui est une eau du début de la vie. Est-ce qu'il baigne là-dedans, ce disque-là?
Totalement, puisqu'il baigne dans ma vie. Et puis, je ne peux pas. Il y a rien de plus authentique. Écrire des chansons si on le fait bien, je pense. Il y a rien de plus vrai, il y a rien de plus proche de soi, même si on ne raconte pas notre histoire à la lettre, mais en l'histoire d'une ou d'un autre. C'est l'émotion qu'on raconte, donc il faut qu'on la connaisse pour la raconter. Comme forcément ce liquide amniotique qui berce ma vie depuis quelques années, il m'a fait comprendre plein de choses aussi sur moi et sur la vie. Ça peut être ça pour moi, pour quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment ça un déclencheur. Et comme il y a bien évidemment, il va exister entre les lignes. Il va exister dans une certaine forme de choix de mots. Même quand on veut raconter quelque chose de grave, on va choisir quelque chose qui va permettre de délivrer d'une manière claire et efficace, parce qu'on a une responsabilité. Quand on a le liquide amniotique, il nous donne conscience.
Est-ce que quand vous n'écrivez pas de chansons, vous ne vous exprimez pas? Vous avez dit finalement, c'est le moyen d'expression le plus puissant dont je dispose.
Totalement. Alors, totalement, parce qu'en fait, je pense que je ne pourrais pas passer à côté les projets que j'ai la chance d'explorer, comme les musiques de films ou de théâtre ou de danse ou autres formes d'écriture. Ou juste parfois préparer la scène, être sur scène, c'est important aussi. Mais je pense que celle qui en tout cas, dans laquelle je me sens la plus complète, c'est le songwriting.
Et quand elle n'a pas lieu, cette forme-là, parce que ça vous est arrivé de ne pas écrire des chansons?
Ça m'arrive souvent de travailler sur autre chose. Elle fermente, elle a besoin de venir. Quand elle n'a pas lieu, elle frappe. Elle me dit qu'il est temps.
Tu connais l'heure bleue?
L'heure bleue.
En fait, c'est pas une heure, c'est une minute. Juste avant l'aube, il y a une minute de silence. Les oiseaux de jour sont pas encore réveillés et les oiseaux de nuit sont déjà couchés. Et là, c'est le silence. Quand j'étais petite, je demandais à ma mère de me réveiller juste pour cette heure-là.
Tous les matins?
Oh non, pas tous les matins, je sais pas moi. Deux ou trois fois l'année, surtout l'été, quand le ciel est tout clair. C'est difficile de donner une idée à quelqu'un qui l'a pas vécu. Mais en fait, le silence dans la nature, ça fait peur. Tiens, c'est un peu comme dans un tribunal, quand le jury délibère et qu'on attend la sentence. Ou c'est la vie, ou c'est la mort.
Voilà qui est plus grave que prévu. C'est un extrait de L'heure bleue d'Éric Rohmer. Et donc au départ, dans cette description, on a vraiment l'impression qu'on est du côté très bucolique de l'affaire. Et voilà, la fin de la nuit, le début d'un jour d'été, le réveil de la mère. Et ensuite, le tribunal de la mort. Le tribunal de la mort possible. On voulait commencer avec vous, avec cet extrait-là, Kerenan, tout simplement pour vous faire parler de ce titre-là. Pas l'heure bleue, mais bleu tout court. Comment l'avez-vous choisi, ce mot ?
Justement, c'est exactement ça, bleu. C'est cette capacité d'être le bleu du feu, le bleu de l'eau, les extrêmes. C'est une ambiguïté que j'aime utiliser d'une manière générale dans mes chansons. Et là encore plus, le meilleur exemple, ce serait peut-être la chanson « Sous l'eau » où il y a plein d'éléments qui justement qui viennent. Il y a le sang, il y a le son. Il y a cet amour tellement puissant qu'il a besoin d'être répété pour se réaliser. Mais on ne sait pas si on parle d'une naissance ou d'une mort. Et je le dis souvent, mais l'euphorie ou qui est liée à perdre quelqu'un dans ses bras ou accueillir quelqu'un dans ses bras, elle est tellement similaire, la ligne est tellement fine entre les deux, que je pense que souvent on compare les deux. Et je trouve que, mis à part l'aspect de l'eau, le bleu, ce bleu au féminin, ce bleu qui est à la fois lié au blues, mais aussi à quelque chose de fort et de merveilleux, c'est aussi justement la fine ligne entre ces deux extrêmes. Et dans les écrits, enfin dans les chansons en général, je trouve que ça fait du bien de retrouver cette ambiguïté, parce que... on dit souvent que les moments très très forts et de d'euphorie extrême, comme un vrai coup de foudre, ça nous fait vivre, il y a l'adrénaline et on se ressent, mais ça nous tue aussi par la même occasion, parce qu'un jour on va le perdre et ça devient déjà une forme de mélancolie, quelque chose qu'on a, enfin une perte, c'est tout de suite quelque chose qui nous tue petit à petit. Donc en fait, je trouve que la ligne est très très fine entre les deux.
Mais vous dites, Kerenan, on le dit souvent, mais moi je crois qu'on le dit pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'on dit pas si souvent que ça que la naissance d'un enfant a à voir avec la mort, et que la mort d'un être cher peut avoir à voir avec la naissance. C'est pas si souvent dit, vous voyez ce que je veux dire, on a davantage tendance à associer la tristesse à la mort et l'euphorie à la naissance. Ce fil de l'ambiguïté que vous travaillez dans vos chansons et que vous faites, à laquelle vous faites la référence, est quelque chose qui n'est pas tant exprimé. Vous trouvez que c'est comme ça, que c'est souvent raconté?
Peut-être pas souvent raconté, c'est pas d'une manière, peut-être c'est pas un sujet facile, mais en tout cas je le ressens. Souvent entre les lignes. Je peux le ressentir chez du Murakami, ou je peux le ressentir chez Hemingway, mais peut-être parce que c'est ma lecture de la vie. De la même manière que, en fait, parfois je parle, on ne sait pas si je parle du passé ou du futur, mais la différence, elle est pas très très grande. Je pars de l'idée qu'en fait, toutes les personnes que j'ai aimées dans le passé, je les aime encore. Et tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés et que j'aimerais un jour, je les aime déjà. Et que ma fille, j'ai pas aucun souvenir d'avoir été vivante sans l'avoir aimée, alors que je ne la connais que depuis 6 ans et demi. Ou 7 ans, et un peu si on compte de la grossesse. Donc finalement, c'est très très difficile en fait. On n'a pas les explications. Et étant quelqu'un de très pragmatique, mais qui aime justement, et je trouve que dans ces sensations-là, les accepter, les regarder, les observer, même entre les lignes et des autres, ça veut dire accepter énormément cet aspect-là. C'est pour ça peut-être qu'il est présent, parce que dans ma lecture de la vie, c'est constant.
Ça veut dire que ce bleu aussi, pour en revenir à ce mot-là, Kerenan, c'est aussi le bleu du flou. Mais pas un flou au sens de l'incertitude, un flou où toutes les époques coexistent, un flou où l'intensité qui naît de la mort jouxte l'intensité qui naît de la naissance, et aussi l'intensité qui naît de la rencontre amoureuse jouxte l'intensité qui naît de la rupture. Enfin, on sent que finalement, l'endroit où vous vous situez, c'est l'intensité, et qu'ensuite, tout peut s'y mélanger.
C'est un peu tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit d'illustrer la mélancolie, ça veut dire qu'on arrive à dissocier et à reconnaître les moments extrêmes de bonheur, puisque une heure plus tard, c'était il y a une heure, donc on l'a plus. Donc forcément, c'est devenu nostalgique et mélancolique. Donc à partir du moment où on choisit de l'illustrer, c'est partout et tout le temps. Après, il y a des moments dans la vie où on est indifférent et c'est important aussi. On est dans un état robotique, c'est important aussi. On marche comme ça et on ne voit rien, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'enregistre pas. Et ça ne veut pas dire que notre corps ne s'en souvient pas quand on en a besoin comme outil pour le raconter ensuite. Et je pense que ça a toujours été peut-être une manière de regarder la vie.
Parfois, vous la traversez et vous vous rendez compte plus tard que votre corps ou votre tête n'était pas complètement au repos.
Et oui, et puis j'essaie de la traverser sans voir le moins possible. Parce que comme ça passe très très vite, j'aimerais en tout cas être consciente que même quand je vois pas, je vois. Et puis après le ressentir, parce que j'ai pas envie de la laisser passer quand même.
Dans L'heure bleue de Romer, cette jeune fille dit qu'elle a demandé plusieurs fois à sa mère, notamment l'été, de se faire réveiller à l'aube pour vivre justement cette instance particulière de la nuit qui finit, du jour qui ne commence pas encore. Tout à l'heure, vous parliez d'heures solitaires ou de minutes solitaires avec un café dans une cuisine. C'est bien qu'on se demande, vous les écrivez quand ces chansons du liquide bleu alors, Kerenan, le matin à l'aube?
Cet album, oui, beaucoup, parce qu'en fait, il fallait vraiment que je trouve des moments de silence total, donc je me réveillais très très tôt, parce que je travaillais sur plusieurs projets, il fallait que je trouve... Et je trouvais qu'en fin de journée, qu'ils étaient remplis et pleins, et que j'étais déjà en studio pour plein de choses, pour un film, où j'ai déjà eu le quotidien que j'aime tant avec ma fille, et en fait, je trouvais que... les choses étaient soit saturées, soit modifiées, et j'avais besoin de cette vision assez bleue, assez débutante des choses par moment, justement, où on se réveille, on regarde les choses, et c'est un peu comme ça le premier regard, et donc je me réveillais à 4h30, 5h par moment.
Seule ? Sans personne pour toquer à la porte et vous dire debout ?
Non, mais non, seule pour justement pouvoir monter, avoir l'espace pour moi, et en fait, j'ai jamais connu quelqu'un qui toque à la porte et qui me dit debout. Je suis née de sexe féminin, donc c'est plutôt l'autre sexe à qui on dit debout. Enfin, il y a rien de méchant dans ce que je dis, mais c'est vrai que je pense que voilà, on est né, on a compris qu'on est voué à une vie où on a besoin de se
débrouiller toute
seule, de se réveiller soi-même en tout cas. Voilà, et de réveiller l'autre ensuite. France Culture par les temps qui courent. Marie Richeux avec Keren Anne.
Ces mots sous l'eau, quand le soleil splendide se jette dans le vide. Le son du fond ravive dans le silence des vagues bleues immenses. Il me tue cet amour, il me tue cet amour. Cet amour, il me tue, 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 cet amour. Le sang a-t-il vraiment d'ailleurs? Il me tue, cet amour. 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 Il me tue.
Sous l'eau, Karenan, c'est un extrait de Bleu. Et en l'écoutant, je faisais des dessins parce que je n'arrête pas de me dire il y a plein de choses horizontales et il y a plein de choses verticales dans la construction de ce morceau. Et par exemple, à la verticale, pour moi, il y a la manière dont vous répétez « Il me tue cet amour » qui comme si, qui creuse, qui coule. Et je me dis, à chaque fois que vous le prononcez, « Il me tue cet amour », vous le prononcez différemment. Alors, comment vous avez trouvé cette phrase? Comment elle est arrivée, cette phrase-là?
C'est marrant parce que Sous l'eau, elle fait partie de ces chansons que j'imagine fermentent très très inconsciemment et que d'un coup, elle sort. C'est vraiment, elle fait partie des chansons où effectivement après, peut-être pour l'habiller et pour lui donner cet aspect orchestré qu'on découvre après, parce qu'on a, au début on a l'impression que c'est un piano-voix. Il y a du tissage parce qu'on n'a pas envie de mettre des taches sur quelque chose de pur qui existe. Mais en tout cas, pour moi, la chanson en elle-même, elle est venue assez vite. Elle était assez instinctive et tous les éléments qui y sont, que ça soit le son, le questionnement extrême, le bonheur extrême, cette euphorie, cette frénésie, tout ça, c'est venu, c'est des mots qui sont venus très très vite. Et je pense que j'ai dû tourner autour. J'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de mantra dans le refrain. Mais c'était pas, il me tue ton amour. C'était pas quelque chose lié. C'était juste, voilà, il fallait que je pointe du doigt cet amour et que je dise haut et fort le fait qu'il me fait et qu'ensuite je le répète encore et encore pour le réaliser.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous ne le répétez en fait jamais vraiment, Karenan? C'est qu'à chaque fois que cette phrase est redite, c'est comme si vous la pensiez différemment.
C'est possible parce qu'il y a tellement de manières de la penser, cette phrase. Il y a tellement de manières. Enfin, les deux plus évidentes, c'est est-ce qu'elle me tue? Parce qu'on peut dire ça de quelque chose qui nous plaît énormément, qui nous fait vivre, qui nous donne de l'adrénaline, ou est-ce qu'elle me tue parce que je ne veux plus sentir tellement elle est insupportable et invivable. Mais après, il y a tout ce qu'il y a entre les deux aussi. Donc, c'est plutôt agréable. C'est pour ça que j'aime bien la répétition et que le format chanson le permet. Même quand on ne répète pas la même phrase ou le même mot, en général, il y a au moins un refrain qu'on répète. Et je trouve que ça nous donne une frontière pour rester dans le même sujet, dans le même thème, parfois. C'est ça aussi la beauté de l'écriture de chansons, c'est qu'entre 3 et 5 minutes, on raconte quelque chose de précis qui a duré trois minutes, mais parfois on raconte toute une vie. Et j'aime bien cet exercice encore et encore et encore dans cette chanson. Pour moi, c'est voilà, c'est arrivé à. Je suis sûre que j'ai. C'est un thème sur lequel, autour duquel j'ai déjà tourné et que j'ai déjà exploré. Mais avec celle-là, en tout cas, il y a une espèce de clôture. Je ne sais pas si je reviendrai dessus.
C'est-à-dire, vous ne reviendrez pas sur l'amour ?
Ah non, c'est toujours, parce que c'est mon seul sujet. Même quand c'est les relations et l'amour, qu'elles soient amoureuses, fraternelles, amicales, celles de famille, c'est ma seule manière de m'exprimer. Mais quand je parle d'autres choses, je les ramènerai toujours à ces relations-là. Mais quand je dis le sujet-là, c'est-à-dire ce sujet intense d'avoir perdu quelqu'un dans mes bras et d'avoir vu naître quelqu'un et le prendre dans mes bras en si peu de temps et d'avoir enfin compris l'euphorie, la beauté de ce moment.
Je parlais des choses qui arrivent aussi à l'horizontale. Vous dites, voilà, entre 3 et 5 minutes, il se passe plein de choses, en fait, entre presque 5 minutes dans cette chanson-là, Sous l'eau, Kerenan. La manière dont les cordes entrent, la manière dont un accord plaqué de guitare saturée entre, là aussi, de manière subtile, mais on sent que c'est important. Cette orchestration, vous dites, c'est du tissage, c'est de l'écriture. Comment est-ce que ça se fabrique?
C'est des matières. C'est une forme de. En fait, c'est presque une matière. Le premier violon, c'est une matière. Le deuxième, l'alto, le violoncelle. La guitare, la manière dont on va l'utiliser, il y a même une batterie dedans,
mais ouais.
Voilà, il y a la basse qui est toujours très proche de la voix dans mes productions. En fait, c'est vraiment mon compagnon de son sonore, de paysage sonore, c'est la basse. On la sent toujours très proche, très devant avec moi. Mais oui, ça peut être du tissage, ça peut être instinctif, mais c'est du tissage de où on a envie d'entendre les textures, on a envie d'avoir certaines fréquences qui ressortent et on a envie de avec des fréquences simples, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer une guitare et le choix en fait à travers c'est en fait tout le voyage qu'elle fait entre la pièce quand on la joue et puis les micros qu'on choisit, la préampli, le compresseur avant que ça devienne physique, avant que ça devienne un enregistrement. Tout ce trajet-là, on a tellement de possibilités de tout ce qu'elle peut nous apporter. On peut choisir qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit nostalgique, qu'elle soit. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, j'aime le côté artistique aussi dans le monde du son. Et pour moi, c'est une étape en plus. Après, ça n'empêche pas que cette chanson, piano-voix, elle existe aussi. On arrive à ressentir cette émotion-là. Mais en rajoutant de choses, il ne faut pas la perdre. C'est presque comme si on rajoutait encore et encore des éléments. Pas pour agrandir, mais pour ne pas perdre la sensation première qu'on a eue quand on a terminé la chanson.
Et pourtant, pour ne pas faire un piano-voix.
Oui, parce que pour que moi, je comprends le piano-voix, mais si je veux le délivrer, il faut qu'il y ait autre chose pour qu'on puisse faire la lecture.
Parce que vous, quand vous jouez le piano-voix, Kerenan, vous entendez les cordes, la batterie qui va entrer discrètement, la basse.
Ou en tout cas, j'entends physiquement la sensation des fréquences.
Donc, il faut le dire aux autres.
Voilà, je ne peux pas leur cacher.
Le clip qui va avec Sous l'eau est un clip qui vous voit progressivement et en robe victorienne aller vraiment sous l'eau, on ne sait pas, nager, vous noyer, faisant référence peut-être à une noyade célèbre et triste de Virginia Woolf. Quelle place tient ce trait biographique et tristement biographique dans, je ne sais pas, l'univers de cet album, Kerenan?
Déjà, autant qu'artiste, enfin en tout cas qu'auteur, tout ce qu'elle a m'a apporté Virginia Woolf. C'est pas un secret que pour beaucoup de femmes qui écrivent, c'est une grande référence parce que je pense que sa manière de que ça soit en narration ou en racontant et en créant des personnages et des caractères, elle a réussi à nous livrer énormément d'informations avec énormément de poésie. Et esthétiquement déjà, c'est attirant. Mais après, quand on rentre en profondeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de couches. Il y a des couches troubles, il y a des couches plus sereines. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, c'est cette fameuse frénésie avant, plutôt qu'après, mais avant un événement. Et ce qui m'intéressait, c'est que dans le mot qu'elle a laissé, avant d'aller à la rivière pour se laisser emporter...
À son mari ?
Oui, le mot qu'elle a laissé à son mari... Et je pense qu'en le laissant à son mari, il l'a laissé aussi à ses lecteurs et à toute une société. Et à d'autres femmes aussi. Parce que entre les lignes, on ressent. Oui, on ressent une souffrance, mais je dirais on ressent aussi une frénésie qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à dissocier. Est-ce que c'est une euphorie temporaire? Est-ce que c'est une... Ça peut être très très pragmatique aussi. Il y a plein de façons de le lire. Et je voulais imaginer ces heures-là, avant d'aller à la rivière, les heures qu'elle a passées chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait que ça allait arriver. Elle savait qu'elle aurait le courage de le faire. Elle savait que... qu'est-ce qu'elle avait? C'est pas comme ceux qui partent à 27 ans. C'est quelqu'un qui avait déjà vécu, qui a eu déjà eu le temps. Elle a déjà eu le temps d'avoir les outils de la vie. On dit que plus on vit la vie, plus on sait la vivre. Donc, et bizarrement, elle avait encore des choses qui l'empêchaient de vouloir y rester. Et ça, ça m'intéressait. Donc, je voulais le raconter, mais d'une manière plutôt sereine et même si c'est une frénésie. Et avec de l'acceptation. J'aime bien ça dans son écrit aussi. Et ça m'a servi vraiment de template, de quelque chose pour pouvoir faire ce petit film pour la chanson.
Tout à l'heure, vous avez dit, il y a différentes femmes auteurs avec lesquelles je chemine. Il y a celles qui me donnent les outils et il y a celles qui m'inspirent et elles ne sont pas forcément les mêmes.
Oui.
Virginia Woolf, elle fait partie desquelles?
Les deux. Elle fait partie des deux. Après, par exemple, je peux être inspirée par une femme peintre, mais ou aller voir une femme peintre qui n'a jamais été. Par exemple, je suis allée récemment voir l'exposition de Hilma af Klint, qui est une artiste, une des premières artistes à avoir été admise au Royal Academy of the Arts à Stockholm. Qui a fait tout un... Enfin, c'était pas vraiment un rétrospectif, c'était juste au Guggenheim. C'était 18 mois de sa vie qui n'ont pas encore été publiés ni vus parce que c'était comme un appel de l'au-delà qui... Elle faisait ça comme une commission. Elle a raconté des choses. Et donc, forcément, cette femme, j'ai découvert son travail en voyant cette exposition. D'ailleurs, ces tableaux-là, on les a découverts 20 ans après sa mort. Et en fait... Ça m'a retourné, j'y pense encore, c'était il y a 3 mois. Donc ça, j'appelle ça quelqu'un qui m'inspire, mais j'ai pas encore les outils de comment est-ce que ça peut se traduire.
Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui vous donnera les outils
voilà.
Pour traduire.
Mais en tout cas, ça m'inspire, parce que ce qui m'inspire, c'est pas le sujet de ce qu'elle a raconté, c'est certains tons de noir dans lesquels on peut totalement se noyer dans les tons qu'elle choisit. Elle a un côté botanique, sa spécialité, c'était les illustrations botaniques qu'on retrouve même dans ses... ce qu'elle appelle les peintures de l'au-delà. Donc ça, c'est quelque chose qui inspire. Après, par exemple, Sylvia Plath, qui est très très inspirante, mais peut-être qu'elle m'a inspirée quand j'étais adolescente, mais aujourd'hui, c'est presque des outils, la manière dont je vois, parce que elle a une architecture, elle a une... Alors, je décortique pas, mais quand je reviens à son œuvre, c'est presque... J'arrive aussi à voir le côté pragmatique dans les choses qui, pour moi, paraissaient totalement poétiques, oniriques et
de l'éther, quoi.
De l'éther, voilà.
Flotte, ouais.
Voilà, parce que je croyais qu'ils étaient ambigus, alors qu'aujourd'hui, ça me paraît totalement pragmatique. Donc, à partir du moment où on arrive à avoir une vision pragmatique des choses, c'est presque... On arrive à avoir les outils. C'est pour ça que j'ai besoin de deux.
Alors, je sais pas s'il est d'écouter de l'inspiration ou des outils, mais on écoute Bob Dylan.
Quand j'ai reçu le prix Nobel de littérature, je me suis demandé en quoi mes chansons étaient liées à la littérature. J'y ai réfléchi pour voir quel était le lien. Je vais essayer de l'articuler pour vous. Ça va sûrement tourner en rond, mais j'espère que ça va valoir le coup. Si je remonte aux origines, je pense que tout a commencé avec Buddy Holly. Buddy est mort quand j'avais 18 ans, il en avait 22. La première fois que je l'ai écouté, j'ai senti que j'étais son semblable, comme s'il était mon grand frère. J'ai même pensé que je lui ressemblais. Buddy jouait la musique que j'aimais, la musique avec laquelle j'ai grandi, la country, le rock'n'roll, le rhythm and blues. Trois courants distincts de la musique qu'il a fusionné en un seul genre, une seule marque. Buddy écrivait ses chansons avec des belles mélodies et des textes imagés. Et il chantait de façon incroyable, avec une multitude de voix. Il était un archétype, tout ce que je n'étais pas, mais voulais être. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, quelques jours avant sa mort. Il fallait faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller le voir et je n'ai pas été déçu. Il était puissant et électrique, une présence imposante. J'étais à quelques mètres de lui, il était captivant. Je regardais son visage, ses mains, sa manière de taper du pied, ses grandes lunettes noires, ses yeux derrière, sa façon de tenir la guitare, son attitude, son costume impeccable, tout. Il faisait plus vieux que 22 ans. Quelque chose en lui semblait éternel, et il m'a empli de conviction. Puis, sorti de nulle part, une chose mystérieuse est arrivée. Il m'a regardé dans les yeux et m'a transmis quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai flippé. Je crois que son avion s'est écrasé un ou deux jours après, et quelqu'un que je n'avais jamais vu avant m'a tendu un album de Lead Belly, celui avec la chanson Cotton Fields. Et ce disque a changé ma vie, m'a transporté dans un monde inconnu. Comme une explosion, comme si j'avais marché parmi les ombres, comme si les ombres s'étaient illuminées. C'était comme si quelqu'un posait ses mains sur moi. J'ai dû jouer ce disque une centaine de fois.
Romain de Bec-de-Lièvre qui traduit et interprète la voix de Bob Dylan. Bob Dylan qui s'est enregistré pour livrer le discours et recevoir le prix Nobel de littérature qui lui était donné pour ses textes de chansons sans y être. Kerenan, vous faire entendre la voix de Bob Dylan, d'une part pour parler de Bob Dylan, mais aussi pour parler des choses qui nous sont transmise, lui parle de la soudaine lumière qui est faite dans une marche obscure et qui fait que, mystère et boule de gomme, un jour on se met à être ce qu'on est et à faire ce qu'on fait. Alors peut-être quelques mots sur Dylan et ensuite, je sais pas, est-ce que vous avez vous-même reçu comme ça une possibilité de faire ce que vous faites aujourd'hui, Kerenan ?
Dylan m'a appris à vivre, il m'a appris à comprendre l'autre. Il m'a appris à travers ses chansons, j'ai appris parfois à comprendre des gens.
Les outils, quoi.
Voilà, mais les outils de la vie. Dylan, au-delà de ce que ses chansons ont fait, enfin l'émotion que m'ont fait ses chansons, il m'a appris à vivre. J'ai appris à même à aimer parfois, sur certains moments. Je pense que c'est une espèce de... L'ensemble de... Je dis toujours... que lui est aussi Leonard Cohen, et j'insiste sur Bruce Springsteen parce qu'il y a des albums comme The Ghost of Tom Joad ou Devils and Dust qui sont des pareils, où on arrive à avoir tant d'informations et on change après les écoutes de ces albums. J'ai eu un moment de changement comme ça quand j'écoutais Tapestry de Carole King. J'avais un avant et un après, mais c'était plus dans la production et le son. Après, bien évidemment, je suis rentrée, l'œuvre en entier est magnifique, les chansons. Mais c'est vraiment, j'ai eu une espèce de force comme ça d'un point de vue son et production et réalisation, les instruments, les textures. Mais je pense que, après, on peut, forcément avoir des moments comme ça où on a envie d'explorer des choses. Mais moi, c'était beaucoup plus serein et dans mon cas, et évident que je voulais écrire des chansons. Je me suis jamais posé la question. J'ai pas eu un déclic en me disant j'écrivais.
Parce que vous n'avez peut-être pas eu besoin.
En fait, j'écrivais des chansons quand j'étais adolescente. C'était mon passe-temps. C'est plus tard que je me suis mis à les chanter, parce que mon rêve c'était d'écrire des chansons pour que les gens les chantent, mais j'ai compris qu'il y a des chansons qui ne concernaient que mon instrument, qu'il n'y avait que ma voix qui pouvait les porter, parce qu'ils étaient plus personnels, ou parce qu'ils n'allaient pas pour d'autres interprètes, ou que j'avais plus de chansons que de gens autour de moi qui étaient prêts à les chanter. Et donc je me suis mis à les chanter, mais en tout cas, voilà, je pense que Dylan, il fait partie des grands professeurs de la vie.
Et il en reste encore des chansons que vous préférez donner aux autres, désormais que vous avez compris que il est bon d'écrire des chansons pour son propre instrument.
Ah, mais il y a des projets entiers que je fais pour les autres, parce que j'essaye d'écrire pour leur instrument, leur fréquence. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un Wagner tout bas, et il fallait que j'écrive, donc il y a une tessiture précise, il y a des fréquences précises, on a envie de l'entendre avec une progression harmonique précise et avec raconter quelque chose de précis. Donc je pense que la voix de quelqu'un, c'est important quand on a envie d'écrire. Après, il y a aussi la possibilité d'écrire des chansons qui finissent quelque part et qui sont interprétées par quelqu'un, mais c'est pas aussi personnel que prendre une voix et imaginer des chansons pour la voix. Je trouve ça beaucoup plus intéressant.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut changer après une chanson? Vous avez l'air de décrire ça de manière très précise, Kerenan. Écouter une chanson et en être modifié, vous parlez de celle de Bob Dylan ou d'autres, mais et vous parlez de ça en termes d'information.
Oui, parce qu'en fait, je trouve que l'information, elle n'est pas que dans les mots et dans les phrases. L'information, c'est l'ensemble des choses. C'est ce mot-là, suivi de ce mot-là, sur ces deux notes-là, ou quelques notes là, mais posées sur cette progression harmonique-là, pas une autre. Par progression harmonique, c'est-à-dire qu'il y a certaines mélodies ou certaines suites de notes qu'on pourrait chanter sur certaines suites d'accords majeurs, mineurs. Tout ça, c'est tellement d'éléments. C'est l'ensemble des choses qui crée l'émotion, qui crée qu'on est pris. Et dedans, il y a aussi la voix de la personne qui nous le raconte. Et Dylan, c'est parfois ses suites mélodiques et les mots qu'il raconte et la manière dont il raconte. Et justement, et chez lui, et chez Leonard Cohen, et chez Springsteen, il y a quelque chose en commun. C'est que parfois, au fur et à mesure des années, et ça existe aussi un peu chez Billie Holiday, mais il faut aller le chercher plus parce que c'est des progressions harmoniques un peu plus complexes par moment, mais on peut le retrouver. Ils ont ce côté répétition qui existe, parfois même dans les mélodies, et parfois d'une chanson à l'autre, on retrouve les mêmes mélodies. Ça prouve à quel point, parfois, on a besoin d'être authentique et d'être montré. On ne va pas essayer de changer les notes mélodies pour raconter ça, parce que la seule manière de le raconter, c'est avec ces notes-là.
Donc
et avec
ces progressions.
Il faut le faire. On s'en fout de se répéter. On a besoin de raconter d'une certaine manière. Après, on peut évoluer, explorer dans le son autour d'un album à l'autre.
There was a Joe leaning on the back door. A couple Jills that had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime, one says, "Well, I'll take heads this time." One step up, one step back, one loosened her shoulder strap. She couldn't speak. Her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow who was sending an old black Cadillac. And Joe smelled sweet, so she curls up at her boyfriend's feet. She says, "I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money?" Oh, he said, "Yeah. To the room and play with my toys, honey." But the Jill had set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand, who got any of that bread by being the slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks, and there ain't no such thing. Money. We say yeah. Wasn't clear, but I hear that somebody was looking for some easy money.
Parce qu'on l'entend presque parler, en fait, Ricky Lee Jones, sur ce titre-là, Easy Money. On aurait pu vous faire écouter plein de choses, hein, parce que vous venez de citer plein de gens. Karen Ann, évidemment, Leonard Cohen. On aurait même pu entendre Bob Dylan chanter et non parler. Mais cette voix-là de femme, pour parler à la fois de sa voix, et donc peut-être de la vôtre par ricochet, mais aussi de la manière dont elle cause en chantant. Ce qui n'est pas forcément toujours la manière dont vous parler, et on va parler ensuite des langues que vous utilisez, mais d'abord sa voix, Ricky Lee Jones. Tout à l'heure, vous avez dit l'instrument de quelqu'un, c'est quelque chose.
Alors déjà, c'est un très bon choix de chanson, j'adore. Et Ricky Lee Jones, qui avait toute une période, bien évidemment, déjà c'est le premier concert que j'ai vu de ma vie.
C'est vrai?
Oui, elle était en première partie.
Où ça?
C'était dans l'amphithéâtre de Césarée, on était en vacances, et elle était en première partie de Ray Charles, et j'ai pas eu le droit d'aller voir le concert, juste la première partie, parce que sinon il allait être trop tard.
Oh, vous avez manqué Ray Charles à Césarée?
Oui, mais c'est pas grave, parce que j'ai vu Ricky Lee Jones en robe blanche, pieds nus.
Eh ben.
Et en fait, c'était vraiment super, elle avait quelque chose de très désabusé. Et sa voix coulait de source, elle était vraiment naturelle. C'est marrant parce que elle sortait comme ça, sans instrument justement. Elle avait une facilité à monter, à descendre dans les tessitures, des graves, des aigus. C'était assez impressionnant, j'ai beaucoup aimé.
C'est peut-être ça que j'entends quand je dis « elle chante comme elle cause », c'est qu'on a l'impression qu'en effet, elle ne force pas, qu'elle vient là dire ce qu'elle a raconté, « Easy Money ». Comment est-ce que vous parlerez, vous, Karen Ann, de la manière dont aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, peut-être pas avant, vous êtes avec votre voix?
En fait, j'ai toujours essayé qu'il soit le plus naturel possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits comme à Nouvelle-Orléans, on dit que quelqu'un qui chante ne devient pas chanteur avant l'âge de 40 ans parce que il y a quelque chose qui arrive avec la sagesse dans la voix. Après, ça veut pas dire qu'avant il est pas aussi naturel. Mais par exemple, même dans les instruments, pour pouvoir expliquer par exemple Chet Baker, la manière dont il joue de la trompette, c'est la manière dont il chante.
Dont il respire presque.
Voilà, on a l'impression qu'il y a aucune, que c'est pas du tout laborieux, alors que c'est le contraire qui est vrai, parce que montrer une facette aussi intime, c'est quelque chose de plutôt laborieux. Donc oui, je pense que quand on est en confidence, même quand on chante plus fort, même quand on est sur scène avec un orchestre et on chante, il faut que ce soit naturellement lié à l'espace. Quand on est dans une pièce, on a envie que notre voix sonne dans la pièce. Quand on est dans une salle de concert, on a envie qu'elle sonne, qu'elle enveloppe ou qu'elle arrive à raconter dans cette salle de concert. Donc le lieu est très très important et aussi la manière. Mais moi, je pense que les voix naturelles, il y a des gens qui ont une voix très, très, qui paraît très sportive, mais ça se fait très, très naturellement, hein. Ça veut pas forcément dire. Beyoncé, pour moi, sa voix naturelle, son instrument naturel et cette capacité très sportive et impressionnante, elle force dans la pensée, dans la composition quand elle chante. Elle pousse pas autrement que sa manière qui est avec son organe, avec son instrument.
Quand vous parlez de ce premier concert-là, on entend bien que voir des gens sur scène est quelque chose d'important. On entend aussi en sous-couche, Karen Ann, que être sur scène, c'est quelque chose d'important. Ça occupe quelle place dans votre vie d'artiste?
Alors, être sur scène, c'est aussi pouvoir donner différents versions aussi des choses qu'on a déjà fait, justement parce que ça pourrait être insupportable de chanter encore et encore les mêmes chansons, mais la possibilité qu'il y a tellement d'autres éléments qui rentrent en jeu, notre état, l'interactivité avec les autres musiciens, la salle, le lieu, la journée qu'on a passée, tout ça, ça reste dans une vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup le côté éphémère, un peu du crime, des concerts où c'est vous et moi, ceux qui étaient dans la salle, qui ont vécu ce moment. Je pense que c'est très rare qu'on arrive à le transmettre en image ou en audio après, parce qu'il faut avoir été là pour vivre ce moment. C'est ça aussi la magie de la scène. Et c'est ça aussi la magie après, le contraste avec le studio où on a le temps justement de faire ce métier, de raconter la seule version enregistrée de certaines chansons.
Et qui restera peut-être pas forcément celle qui compte, mais celle qui sera gravée. Je disais Ricky Lee Jones qui chante comme elle cause, en l'occurrence là en anglais, sur Bleu Karen Ann, vous ne causez qu'en français. Je dirais même vous parlez plutôt qu'utiliser le mot causer, parce que ça va avec Ricky Lee Jones, mais un peu moins avec la manière dont les mots semblent choisis au millimètre pour Bleu. On peut dire qu'en termes de langue, vous avez un peu le choix. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand on a le choix, et qu'on en fait un, ça a du sens. Quel est celui-là?
En fait, le choix du français, il est très, très lié au fait que depuis quelques années, je suis de retour. Je n'ai pas qu'un pied à Paris, j'ai deux pieds à Paris. J'ai toujours eu un pied à Paris, mais en vivant dans une famille anglo-saxonne, avec parler anglais avec ma fille, enfin, environnement très très anglo-saxon, mais avec le français en premier plan quand même, puisque c'est ma langue d'adoption et que j'ai toujours choisi d'écrire et de continuer à écrire, même pour les autres, dans cette langue. Sauf que là, c'est un chapitre qui existe en français, l'environnement sonore est français, j'entends des français à longueur de journée autour de moi. C'était naturel que cet album soit en français.
Ça n'a pas plus d'impact que ça sur peut-être même juste l'ensemble de Bleu, parce qu'on a l'impression que c'est un monde aussi cet album-là, et que c'est un monde, qui a peut-être cette forme-là parce qu'il a été écrit en français.
C'est possible, oui, je pense qu'il aurait eu une autre forme si je racontais, mais justement, quand je dis que je raconte un chapitre, ça ne veut pas dire que dans cet album, il n'y a que ces dernières années, il y a plein d'années, mais ressenties dans cet environnement francophone et de la manière dont j' ai envie de les raconter, de les délivrer. Et c'est vrai que ça fait un moment et puis ça fait des années qu'on me dit vraiment, il faut vraiment que tu fasses un album en français, ça fait longtemps. Et je dis oui, mais il faut que je fasse quand c'est authentique. Je pense que le moment où j'ai dit ok, je pense que j'ai envie de faire un album en français et que j'ai essayé d'abord et j'ai écrit la moitié avant de le dire autour de moi un peu, c'est parce que c'était vrai, c'était authentique. C'était pas parce que je me suis dit, je suis en France, je pourrais le défendre, je peux pas trop bouger en ce moment parce que ma fille est scolarisée et puis je peux pas trop tourner. Ça n'a rien à voir, il fallait que ça soit vrai, que la motivation en tout cas soit authentique, parce que sinon je ne sais pas écrire autrement.
Fortune à la lumière rare de nos nuits de pleine lune, de ton heure de gloire. La bonne malchance, c'est le court circuit de ton indifférence, du soleil de minuit. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre. Et inopportune cette fois, elle porte à bout le bras un bout de toi, peut-être vêtue d'un beau costume. La mauvaise fortune est un chien de garde, mais je n'en vois qu'une quand je te regarde. Elle allume les phares de ces nuits d'hiver, de ton cœur noir, de tes yeux clairs. Mais cette fois, c'est la dernière fois qu'elle vient à ma fenêtre, ivre et inopportune. Un bout de bras, un bout de toi peut-être, vêtu d'un beau costume. Elle devient qu'une quand ils deviennent amants. La bonne malchance vit dans ton ombre. C'est avec toi qu'elle danse quand la vie est sombre.
On
On va se permettre d'aller au bout de l'écho, Karen Anne, pour ce morceau-là. La mauvaise fortune où tous les contraires cohabitent, mais cohabitent dans la voix d'une femme qui décide. Et Bleu fait entendre plein de voix différentes. On parlait tout à l'heure des vagues et de la manière dont Virginia Woolf fait apparaître avec différents monologues une voix multiple, en fait. Une voix très composée, très hétérogène. Et là, dans cette chanson, La mauvaise fortune, c'est une femme qui dit « Ok, c'est la dernière fois ». Quelle est cette femme-là, Karen Anne ?
Alors, en fait, déjà pour moi, c'est une femme qui est à Montmartre, parce que je sens
c'est marrant, je me disais ça. je me disais ça, en tout cas, peut-être pas à Montmartre, mais une femme qui est en train de regarder la ville.
Oui, voilà, qui regarde la ville. Là, c'est vraiment les pavés de Montmartre qui est mon quartier. En fait, cette chanson, elle est née parce que Franck Ribière, quand il a fait La femme la plus assassinée du monde, en fait, il y a toute une partie qui se passe à Montmartre, la plupart du film d'ailleurs à l'époque, et il y a tout, il y a des meurtres, il y a des choses, et puis il y a des histoires d'amour, et il y a cette histoire de Paola Maxa aussi, qui était une actrice de Grand Guignol, qui rêvait d'aller faire du cinéma et tout. Et en fait, Montmartre, c'est vraiment un lieu de passants, d'artistes qui partent, qui arrivent, il y a plein de gens, des chansonniers, de peintres et tout, puis mais je pense qu'il y a aussi ce quartier, c'est que c'est un petit village et que c'est un mini Paris dans Paris. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu regarder. Alors parfois on voit des histoires du passé, des histoires du présent, des histoires qu'on imagine qui arrivent, mais c'est un peu un regard par la fenêtre sur une ville, sur un quartier et observer tout ce qui se passe dans les rues.
Il faut la croire quand elle dit cette fois, c'est la dernière fois.
Je pense qu'elle a décidé que c'est la dernière fois et c'est comme ça. Il y aura pas, ça se fera pas autrement parce que peut-être qu'elle a les menottes. Elle saura comment la faire fuir, j'espère. En tout cas, je compte dessus.
Tout à l'heure, Karen Anne, quand je vous ai demandé si vous vous leviez toute seule pour écrire le matin à l'aube, vous m'avez dit, mais en fait, il n'y a personne, moi, qui vient toquer à ma porte pour me réveiller. Je suis née de sexe féminin et je suis donc de celle qui doit se réveiller d'abord pour aller réveiller les autres. Est-ce que vous croyez ou est-ce que quelque chose du genre vous intéresse quand on parle d'art? Je m'explique, est-ce que vous avez l'impression que vous écrivez et composez comme une femme? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous?
Totalement, c'est pas enfin parce que je pense que c'est un métier qui est fantastique enfin ça, j'ai la chance de faire ce métier, mais je pense que je le fais comme une femme parce qu'il y a justement les artères par moment. Après, ça veut pas dire que je suis intéressée par les mêmes sujets que d'hommes. Cassavet, il a toujours dit que son seul sujet qui le motive pour écrire, c'est l'amour, et je me reconnais dedans. Et c'est pareil quand Murakami fait les narrations de ses histoires courtes. Je reconnais aussi. Enfin, en tout cas, je me sens proche de gens qui racontent et de sa vision. Ça veut pas forcément dire le contraire, mais quand je dis autant que femme, parce que oui. J'ai une responsabilité dans l'écriture, celle de la femme. Après, c'est le contenu et la matière. On n'a pas forcément besoin d'essayer d'analyser si c'est écrit par une femme ou par un homme. Mais je pense que, voilà, être femme auteur, être femme auteur-compositeur, c'est comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que, au début de sa carrière, on cherche l'homme derrière et à un moment, on comprend en fait, ça sert à rien d'aller chercher. Mais ça, c'est un classique, peut-être de ma génération. J'espère que c'est en train de changer. Après, il y a plein d'autres choses qui ont déjà changé, avec lesquelles on est en régression. Mais
En tout cas, il y a un E au mot bleu sur le
Totalement.
Titre de cet album qui sort chez Polydor. Merci beaucoup, Karen Anne,
merci
d'avoir
vous.
Été avec nous. Ce soir au son, c'était Pierre Monteil à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luc Beauvillier, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chasseur qui m'aide à préparer cette émission tous les jours. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr et réécouter toutes les autres en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent, un artiste tous les soirs, une heure de radio. Dans un instant, le journal sur France Culture. Très belle soirée. Et voyez, les jours heureux, ils arrivent.
De l'horizon, ces deux amants que nous étions, ne vois-tu pas venir les jours heureux? Ils sont bien là et disent. l'on vivait sans eux. Jusque-là, regarde le ciel près de la lune, cette petite lumière, je n'en vois qu'une. Vois-tu pas venir les jours heureux? Ils sont bien là et dire que l'on vivait sans eux. Jusque-là, désormais, ne vois-tu pas?